Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et comme chaque jour, et nous allons vous parler, comme toujours, de football et des Bleus tenus en échec par des Turcs combatifs. Une équipe de France offensivement décevante, malgré Olivier Giroud, et qui peut s'en vouloir, enfin en tout cas, pas son sélectionneur qui ne regrette pas ses choix. Les champions du monde vont-ils finir deuxième de leur poule ? L'UEFA appelé à la rescousse pour sanctionner la Turquie, dont les joueurs ont répété leurs gestes militaires, et sanctionner la Bulgarie pour les cris et chants racistes qui ont visé les adversaires anglais. Comment les dirigeants du football européen peuvent-ils faire cesser ces débordements politiques durant les matchs ? Appelez-le désormais CR700. La star du football a inscrit hier sous les couleurs portugaises son 700e but de joueur professionnel. Un nouveau record et le voilà dans le groupe restreint des footballeurs aux 700 buts. Prochaine étape, 735. Les premiers mots de Rudy Garcia, nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il a expliqué son projet de jeu avec l'équipe supervisée par Juninho. Actuellement, cette équipe est 14e de la Ligue 1. Et pour évoquer ces sujets aujourd'hui, Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Dominique Sévrac est là aussi.
Bonjour Dominique. Annie, quelques têtes de Turcs dans votre sommaire, mais pas ici.
La tête de Turc, vous l'avez vu hier soir sur la pelouse, n'est-ce pas ? Il y a un certain Alioubah de Dakar qui m'a dit de saluer le grand King Sévrac.
Ah bah Alioubah, hein, on l'embrasse.
Hein, n'est-ce pas ? Hein, juste pour vous. Hein,
c'est
pas
gentil,
pour nous.
Mais c'est gentil. Il y a des gens qui m'aiment, c'est un peu surprenant.
Hein,
mais...
hein, n'est-ce pas ? Bruno Constant est là aussi. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bruno Constant du podcast 100% foot anglais que vous pouvez retrouver aussi sur notre page Facebook de l'émission. Et puis Antoine Grenier, hein, comme Dominique, vous êtes mis à côté d'ailleurs aujourd'hui. Vous arrivez du Stade de France et vous avez vu, vous n'êtes pas une tête de Turc non plus aujourd'hui.
Oui, j'arrive, je suis repassé chez moi quand même entre le stade et ici.
Ah bon ?
C'est dommage que l'émission ne soit pas filmée parce que Dominique Sévrac est magnifique aujourd'hui. Il a sorti la veste des grands jours.
C'est parce que le King Sévrac était attendu aujourd'hui dans notre studio. Radio Foot, c'est parti.
Et la tête, et le but ! Olivier Giroud, sur ce corner ! Oh, c'est mérité parce qu'il y avait clairement pénalty jusqu'avant. Et le corner frappé par Antoine Griezmann, Olivier Giroud qui est rentré il y a 3 minutes tout juste et qui vient marquer. Et l'équipe de France à un quart d'heure de la fin mène 1-0 face à la Turquie. L'égalisation turque sur ce coup franc. Oh, deuxième poteau, c'est Kane qui vient égaliser. Un partout, tout est à refaire. Les Bleus ne sont plus qualifiés. Et les Turcs ont égalisé grâce à Kane. C'est fini et le bon Turc, ils étaient tous debout, c'est comme s'ils avaient gagné.
Ils auraient pu se qualifier, alors ce que vous avez entendu, hein, exalté, c'était Olivier Pron et un petit peu Antoine Grenier qui essayait de commenter le match et les buts surtout. Ils auraient pu donc se qualifier pour l'Euro 2020 dès hier soir devant leur public et sur notre antenne en direct du Stade de France. Mais les vice-champions d'Europe et champions du monde en titre ont retardé l'échéance. Il leur faudra obtenir ce sauf-conduit en novembre prochain à domicile face à la Moldavie ou en Albanie. Il leur reste deux matchs pour se rattraper. En tout cas, les voilà deuxième du groupage derrière la Turquie. Pour cette rencontre qui se voulait pourtant une revanche sur la déroute à Konya et s'est terminée en match nul, les Français ont-ils manqué de talent ? La tactique de Didier Deschamps a-t-elle manqué d'ambition ? Alors évidemment, la question lui a été posée hier, peut-être par vous, Dominique. C'était vous ?
Non, c'était pas vous. Un confrère de la radio.
Un confrère. Le sélectionneur, en tout cas des Bleus, Didier Deschamps, réfute totalement cette analyse.
C'est quoi être plus offensif ? Si l'équipe qui est alignée se crée pas d'occasion, je veux bien, mais on s'est créé suffisamment d'occasions, on a eu pas mal d'opportunités. Moi, je n'ai jamais de regrets, je fais des choix par rapport à certains moments. Les buts, si on les marque, il n'y aurait pas cette question. Non, je n'ai pas de regrets. J'ai fait ce qui je pensais être le mieux pour l'équipe. Les joueurs ont répondu, ceux qui sont rentrés aussi. Voilà, ça tient à quoi après ? Quand je vous dis que c'est le résultat la chose la plus importante, ben ouais.
Ben ouais. Et voilà, le résultat, c'était un match nul. plein de certitudes, notre Didier Deschamps. Mais Antoine Grenier, on a envie de se demander où est passée l'efficacité offensive de ces hommes.
Bah, l'efficacité offensive, elle a reposé hier uniquement sur Olivier Giroud, tout simplement, qui est rentré, qui a marqué.
Mais
effectivement, les Français, notamment pendant la Coupe du Monde, nous avaient habitués à avoir pas besoin de forcément beaucoup d'occasions pour marquer. Là, hier soir, il frappe 22 fois au but, il cadre 9 fois, ils sont tombés sur un excellent gardien, il faut le reconnaître, le gardien turc a fait une énorme prestation, mais c'est sûr que l'efficacité a fait défaut hier soir. En revanche, pas du côté turc.
Et vous diriez peut-être que c'est de la faute de Didier Deschamps, de ses choix? Parce que vous parlez de Giroud, Giroud rentre en fin de match.
Oui, il rentre à la 72e minute, il est un peu à court de compétition aussi Olivier Giroud, donc ça a certainement pesé dans le choix de Didier Deschamps de l'aligner d'entrée. Il lui a préféré Wissam Ben Yedder, le joueur de Monaco, qui a bougé beaucoup, qui a proposé énormément de choses, mais qui sur le peu de ballons
a combiné quelque chose quand même parfois avec Griezmann.
Il a essayé, mais sur le peu de ballons qu'il a eu, il a pas fait le bon contrôle, il a pas fait la bonne passe, et surtout, il est tombé sur une défense turque qui visiblement l'équipe turque était venue chercher match nul.
On a vu
les Turcs défendre. Enfin, c'était l'équipe d'Andorre en fait que les Français avaient face à eux hier. C'était pas la Turquie.
Ils rencontrent souvent des équipes d'Andorre quand même. Je pense qu'à Reykjavik, c'était un peu du même style.
Oui.
Dominique.
La séquence n'est pas banale parce que vous avez marqué 2 buts contre l'Islande et la Turquie.
2 buts en 2 matchs.
Voilà, 2 buts en 2 matchs, dont un penalty. 2 buts par Giroud, l'homme aux 18 minutes de temps de jeu depuis le début de saison, pas sur la feuille de match du dernier match de Chelsea, Lampard décidant de s'en passer. Alors, il y a à la fois, à mon avis, une part.
Mais il est efficace, en tout cas.
Exactement. Alors, il y a une part conjoncturelle. Je pense qu'il manquait Mbappé. Je pense que Griezmann a du mal à s'adapter à Barcelone. Il joue plutôt côté gauche. Lui, en plus, il était remplaçant au dernier match. Giroud, donc, 18 minutes, même s'il il a surperformé par rapport à son temps de jeu. 2 buts. Voilà, le choix de Wissam Ben Yedder qui débute, après il y avait Alassane Pléa sur le banc, donc vous voyez que le sélectionneur qui n'aime pas la casette, donc qui n'est pas là. Donc là c'est la part conjoncturelle, puis la part structurelle.
Il y avait Kanté, il y avait pas Pogba.
Je parle des attaquants.
Ah, pardon.
Et après sur la part structurelle qui relève de Deschamps, moi je pense qu'il manquait de milieu créatif sur l'Islande et sur la Turquie. Je pense que Didier Deschamps, il a choisi une première fois Sissoko, Tolisso, Matuidi en Islande. Hier c'était Sissoko, Matuidi à la récupération. Et Sissoko à droite, pardon, et Matuidi, Tolisso à la récupération, et Coman à gauche. Moi, je trouve qu'il manque. Alors, c'est souvent Paul Pogba qui fait cette passe, qui voit le jeu, qui voit la faille que les autres n'ont pas vue. Alors, quand il est pas là, effectivement, il manque quelqu'un. Tolisso est pas encore à ce niveau-là. Il a un super jeu long, mais pas forcément.
Hier.
Voilà. Donc,
il l'avait pas hier.
Voilà. Moi, je trouve que Didier Deschamps aurait dû trouver un milieu plus créatif. Enfin, peut-être qu'il fallait mettre Lemar dans le cœur du jeu. Je ne sais pas. Et on l'a vu parfois tenter ça. C'est ça, éventuellement, qu'on peut lui reprocher. Après, Antoine l'a dit, 22 tirs, un gardien fantastique. En Islande, ils doivent mettre le deuxième but 100 fois. Donc, il y a une part, encore une fois, conjoncturelle et une part peut-être plus structurelle.
Je m'adresse à l'ancien buteur, n'est-ce pas, Marc Ibra. Est-ce que vous trouvez qu'il manque de... Il n'ose pas assez, Didier Deschamps, et qu'il manque peut-être d'imagination pour ce genre de match?
Non, mais après, je pense qu'on a un petit peu la mémoire courte. On a une équipe de France qui tourne sur un joueur qui s'appelle Kanté. Quand Kanté n'est pas là, c'est totalement différent. Pogba n'est pas là. Lloris n'est pas là. Malheureusement, il y a une erreur sur le second but, mais Mandanda est quand même fautif pour les poteaux. Il doit fermer aussi. Certes, il y a une erreur de marquage. Et puis après, vous n'avez pas Giroud. Donc, on a 4 joueurs qui sont, pour moi,
Mbappé.
Très importants. Mbappé, c'est encore, c'est l'OFNI. Donc, allez, 5 joueurs. Voilà. Comment on peut faire? Donc, on doit faire avec.
Mais on pensait qu'il avait une équipe B quand même, Didier Deschamps.
Mais tout le monde pense qu'il y a une équipe B. Mais l'équipe de Deschamps, qui a été fait, qui a été mis en place, qui a été taillée précieusement, c'est pour un système de jeu. Si Giroud est pas là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que Ben Yedder, j'ai entendu juste avant le match, mais heureusement que Ben Yedder est là. Oh, mais vous allez voir le football. Mais depuis quand l'équipe de France va créer du jeu? On est champion du monde grâce à quoi? C'est-à-dire une équipe ultra compacte qui se met en place par rapport à un système de jeu qui va s'adapter à la Croatie, qui va s'adapter à la Belgique et à des moments précis.
Et en dehors de ces 11, personne ne s'adapte, c'est ça?
Mais c'est difficile. C'est difficile pour eux. Là, le pire qui peut arriver, c'est Kanté qui se blesse lors du premier match. Et là, on a Lemar. Allez vite, Sissoko. Parce que je sais que Sissoko, c'est mon soldat et lui, il va faire la différence. Et il a fait le taf, quoi qu'il arrive. Hernandez, c'est pas là. Boum, digne. Ok, Digne qui fait des bonnes avec Everton, qui est pas mal, mais on met Digne qui a été très bon d'ailleurs. Mais quand on n'a pas ces cinq joueurs-là, c'est plus pareil. On peut dire ce qu'on veut. Tous les gens déblatèrent sur Giroud, mais quel scandale. Mais ça fait quoi, Ben Yedder?
C'est vrai ce que tu dis, mais il faudra se préparer à ça, parce que parfois il arrive.
Je suis d'accord.
À l'Euro,
tu as raison.
Du monde, il y a des forfaits.
Tu as raison. Mais on n'est pas dans une phase aujourd'hui, parce que tu gagnes ces deux matchs. Donc là, tu mets ton équipe de combattants et arrêtons de dire que Giroud, il a pas tant de jeu. Giroud, il a fait 7 à 8 semaines de préparation. Donc ça s'est arrêté fin août. Donc, fin août, je pense qu'on est mi-octobre. Au niveau du rythme, il est pas mal. Il va lui manquer un peu de rythme, comme on l'a vu sur le premier match, où la première mi-temps, il n'est pas dans le coup, comme un peu Griezmann qui a ses problèmes un petit peu à la tête. Et puis sur la seconde période, ça déroule et ça prend du volume. Pourquoi on le met pas pour l'opinion publique en disant ah ben non, vous comprenez, Ben Yedder, et sans... on a vu Ben Yedder. Vous avez vu Ben Yedder, il est rentré, il a fait une deux avec Griezmann, il a fait la différence. Non, ne confondons pas tout. Cette équipe de France, elle a été conçue par
Deschamps.
C'est-à-dire,
vous dites qu'il aurait dû mettre Giroud, c'est ça?
Mais heureusement, il a deux défenseurs. Non, mais, 4, 1, mais on a eu l'exemple à l'aller 4-1-4-1. C'est-à-dire qu'il y a un joueur devant et tout le reste, ça reste derrière.
Non, on ne sait pas si Giroud sans doute pas pu enchaîner deux matchs, débuter deux matchs à trois jours d'intervalle. C'est pour ça qu'il ne le fait pas débuter. Et c'est plutôt intelligent, moi je trouve, justement. C'est là où Deschamps, il y a quand même du bon coaching. C'est qu'il sait que Giroud, sur un quart d'heure, il est capable d'apporter, de peser sur une défense. Mais la leçon de tout ça, en tout cas, et moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que depuis des semaines et depuis la Coupe du Monde, on réclame parfois du changement avec des noms, des uns et des autres. Pas. Et en final, dès qu'on s'éloigne du 11 qui était champion du monde, et finalement il y avait très peu d'entrants dans cette Coupe du Monde.
Il y a l'anglais qui a pris.
Voilà, il y a l'anglais. Et Coman qui est plutôt intéressant, je trouve, sur un côté. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de perdants. Tolisso, c'est un grand perdant dans l'histoire. Et effectivement, dès qu'on n'a pas ce milieu très costaud avec Pogba, Kanté, parce que maintenant vraiment on peut associer les deux et l'un, pas l'un sans l'autre. Eh ben on perd en qualité, et Mbappé c'est pareil, il pèse énormément quand il est pas là.
Quand t'as Mbappé, t'as quand même déjà 3-4 joueurs qui ont déjà peur de l'affronter. C'est-à-dire que les mecs qui rentrent sur le terrain, ils ont peur.
Dans l'efficacité,
c'est-à-dire que
autre chose.
Sais déjà, tu dois te préparer. Attends, s'il me part dans le dos, je suis foutu. Donc tu anticipes qu'il faut qu'il parte. Donc en fait, tu déjà t'as 3 joueurs ou 4 joueurs qui sont déjà dedans.
Dominique, ça veut dire que finalement Didier Deschamps n'aurait pas d'équipe B?
Bah, ça veut dire que, comme l'a rappelé Marc, on est champion du monde sur une base de 15 joueurs à peu près. Il y a donc les 11 que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, on peut dire que la seule satisfaction d'un an après la Coupe du Monde, c'est que l'Anglais a remplacé Umtiti
en défense centrale.
Donc ça, c'est le seul changement qu'on peut admettre. Mais Mandanda, c'est plus faible que Lloris. Tolisso, Sissoko. Ben, Sissoko n'était pas à la Coupe du Monde, mais Tolisso, lui, y était. Il avait joué contre l'Uruguay. Matuidi était
suspendu. Sissoko était à l'Euro.
Sissoko était à l'Euro. Tolisso avait joué contre l'Uruguay pour la suspension de Matuidi, mais la base c'était un petit peu Fekir, un petit peu Dembélé, un petit peu Nzonzi.
En remplaçant de luxe.
Voilà, joker de luxe. Un petit peu Tolisso, mais on les connaît les 11. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Il faut absolument que cette équipe-là, il n'y ait pas de blessés pour essayer de conquérir l'Euro 2020, parce que la France va se qualifier. Là aujourd'hui,
vous êtes sûr?
Il faudrait vraiment.
Ah oui, quand même.
Il faudrait vraiment.
Il y a eu des drames passés, n'est-ce pas?
Mais évidemment, vous me le ressortirez parce que c'est maintenant dans la boîte. Mais il faudrait quoi, qu'ils prennent un seul point contre la Moldavie et l'Albanie, et pendant ce temps-là, les Thaïlandes gagnent deux matchs.
C'était la mission de l'équipe de France en 93.
Oui.
Ginola, heureusement, est toujours de ce monde. Gérard Houllier aussi, heureusement.
Et puis Didier Deschamps n'a pas oublié.
Il y a un match au Stade de France, vous allez me dire, bah oui, mais la Bulgarie, c'est au Parc des Princes. Non, bah.
Bon, on va vous croire, Dominique.
Non, mais j'ai du mal.
On veut vous croire.
On va pas battre à Moldavie, déjà.
C'est la seule différence, c'est qu'on ne pourra pas faire forcément d'essais sur les prochains matchs qui arrivent. On va devoir mettre l'équipe.
Bon, on aura la Moldavie et l'Albanie qui, effectivement, sont déjà éliminés. Donc,
le dernier match, a priori, peut-être que la France sera déjà qualifiée. Donc, il comptera pour du beurre.
Antoine, en tout cas, dans l'ensemble, cette équipe de France, elle aura pris 2 points. Un point sur 6 face à la Turquie. La Turquie, elle aura fait le plein. 4 sur 6.
L'équipe de France sait ce que c'est d'être attendue. Elle sait ce que c'est d'être impressionnée comme elle a pu l'être à Konya.
Mais elle n'aime pas jouer des équipes comme la Turquie, finalement, qui lui résistent comme ça.
Toutes les équipes arrivent pour résister
aux champions du monde.
Aux champions du monde, évidemment. On a toujours envie, quand on affronte le champion du monde, de faire le match de sa carrière. Là, les Turcs, c'est plus que simplement un accident industriel à Konya et une contre-performance au Parc des Princes. Ça va un petit peu plus...
Ils étaient chez eux.
Ils étaient chez eux, au Stade de France. Ça va un petit peu plus loin que ça, parce que ça oblige maintenant l'équipe de France à se projeter sur des matchs qu'elle avait peut-être déjà mis entre parenthèses Rodriguez d'une certaine manière. Elle s'était dit, on va arriver en novembre, on sera tranquille. Peut-être que Didier Deschamps envisageait éventuellement de faire, pourquoi pas, quelques essais avec des joueurs qui n'auront peut-être pas la possibilité de rentrer en équipe de France d'ici à novembre. Et il va falloir récupérer maintenant Pogba, il va falloir récupérer Kanté, il va falloir récupérer Lloris, avoir toutes les...
Lloris
ne sera pas là de toute façon. Récupérer Mbappé, avoir cette équipe à 100% tous ces internationaux disponibles pour affronter des équipes comme la Moldavie et l'Albanie qui ne sont pas les plus enthousiasmants à affronter.
Est-ce que c'est inquiétant alors que finalement Didier Deschamps n'est pas d'équipe B?
Il y a peu de nations qui ont une équipe B, il faut être honnête après. Hein. Ça s'ajoute toujours sur un noyau. Qui a une équipe B en Europe?
L'Allemagne.
L'Allemagne a une équipe B? Ils n'ont même pas une équipe A. Il faudrait déjà qu'il y ait une équipe A.
Peut-être qu'il y a un peu plus de réservoirs en Pays-Bas en ce moment.
Ils
ont un banc.
Sur quelques postes, mais pas beaucoup. Hein. Non, noyau, c'est 14-15 joueurs, de toute façon. Ouais. À moins qu'il y ait des grosses blessures.
Depuis la Coupe du Monde, Zonzi a un peu disparu. Fekir a changé de championnat et il est dans un club quand même de seconde zone. Hein. Le Betis Séville, j'ai rien contre, mais c'est pas terrible. Thauvin est blessé. Dembélé, on sait pas s'il va jouer cette saison avec Barcelone. Donc tous les potentiels remplaçants que Didier Deschamps avait formés dans sa liste des 23, ils sont pas là, quoi. Ils sont pas là. Donc aujourd'hui, il est obligé de faire un petit peu avec du bricolage, soit des joueurs comme Ding qui n'était ni à l'Euro, je crois qu'il n'était pas à l'Euro, ni à la Coupe du Monde.
Ni à la Coupe du Monde qui était le réserviste.
Voilà. Sissoko qui lui est à l'Euro mais pas à la Coupe du Monde. Mm-hmm. Ben Yedder qui a 29 ans qui n'était pas à l'Euro, pas à la Coupe du Monde. Encore une fois derrière, c'est
l'Euro, ça commence à dater, c'était il y a 4 ans.
Ben Yedder s'éclate dans quel rôle aujourd'hui à l'AS Monaco? Qui l'a à ses côtés?
Mais oui.
Il s'appelle Slimani, il fait un 90 et il fait la différence à chaque fois. Donc c'est dommage. Ben Yedder, oui, mais avec Giroud malheureusement. Non mais c'est ça qui est
flippant.
Mais
en même temps.
Comment?
On fait quoi de Griezmann?
Ah mais c'est là qu'il faut trouver la solution. C'est-à-dire que où tu fais souffler un gars sur le côté et tu mets Griezmann, parce que Griezmann a fait énormément d'efforts. Il a couru.
On l'a vu descendre très bien.
C'est lui qui provoque la faute du délégation.
Exactement. Un peu stupide. Parce qu'il est à bout. Parce qu'il doit défendre. Parce que tu as pas tes deux récupérateurs devant. Parce que tu prends le fuego.
Parce qu'on vient de changer Matuidi aussi.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc c'est vrai que Ben Yedder est un très grand buteur. Je l'adore. Par contre, si vous mettez pas Giroud à ses côtés, va au charbon sur deux gars. Ben il a perdu tous les ballons et ça marche pas.
C'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon profil pour l'équipe de France. Il vaut mieux un Dembélé dans le profil de Giroud plutôt qu'un Ben Yedder. On n'est pas capable de jouer. On joue finalement, on est très très mauvais dans la possession. On relance,
on cherche Giroud pour les déviations. Regardez, dès qu'il est rentré, on a commencé à balancer, boum, les déviations ont commencé à se faire. Et là, d'un coup, on a un bloc turc qui doit jouer 20 mètres plus bas. Et là, tout change.
Mais quel est le créateur de cette équipe, Marc? Qui va pouvoir faire du jeu?
Mais depuis la Coupe du Monde, on attend l'exploit
même dans
de
la peu de position qu'on a. Ouais.
Mais Dominique, on espérait, je me souviens à la fin de la Coupe du Monde, que d'ici l'Euro, Deschamps bonifie cette équipe et bonifie le jeu. C'est ce qu'on attendait un peu tous. Et là, on est un peu tous sur notre fin, je crois.
Alors, à la fois, je lui en veux pas parce qu'il a gardé une assise défensive assez solide et ça, c'est quand même les conquêtes.
Et elle est de plus en plus forte, je pense.
Les conquêtes, c'est quand même avec une base défensive, donc je pense qu'avec le retour de Lloris, l'anglais Varane, ça peut bien se passer. Bon, j'ai un peu de doute sur Pavard, faudrait qu'il se ressaisisse un peu quand même. Donc voilà, avec Kanté, avec Pogba, moi je suis plutôt déçu sur l'animation offensive. C'est-à-dire que on a Mbappé, Griezmann, Giroud, mais on n'a pas trouvé encore le quatrième homme qui pourrait créer quelque chose. Alors il y a Coman, mais je trouve ça encore très timide.
C'est l'homme du déséquilibre du coup, le quatrième. Oui. C'est pour ça que Deschamps ose pas ou j'en sais rien, ou il trouve pas le bon joueur. Lemar aurait pu être ce joueur-là. Mais tant qu'il trouvera pas la solution, il va revenir à l'équilibre. C'était un Matuidi à gauche ou un Sissoko à droite. C'est ça qui fait que ça les bride un peu, je trouve, moi, dans la
création.
Ouais. Antoine, en tout cas, alors si on se qualifie, puisque Dominique en est certain,
il y a peu de gens qui ont quelle pression.
Antoine, en tout cas, on a quand même peut-être, on risque de ne pas être premier de la poule.
Si l'équipe de France gagne ses deux prochains matchs et que la Turquie gagne ses deux prochains matchs, les Français seront deuxièmes avec ce règlement des confrontations particulières qui sont prises en compte. Il faut maintenant du côté de l'équipe de France prier pour que sur les deux prochains matchs, peut-être face à l'Islande, il va falloir espérer que l'Islande arrive à tenir en échec cette équipe de Turquie.
De Turquie chez elle.
C'est compliqué.
Égalise hier la Turquie.
Elle égalise à la 82e contre l'Albanie.
91e, c'est deux matchs avant, elle avait gagné 1-0 à la dernière minute.
Ouais, c'est une équipe de fin de match. Ça va être
en tout
difficile.
Cas, ouais, et pour le tirage au sort, ça peut aussi être compliqué, puisque le tirage au sort va être à épisode sur 12 villes, et on vous en parlera. En tout cas, malheureusement, si l'ensemble du match s'est déroulé sans incident majeur, on va dire, et dans le contexte géopolitique actuel, la politique s'est quand même de nouveau invitée sur la pelouse. Logiquement, eu égard au match de vendredi dernier remporté face à l'Albanie, on le disait en dernier instant, le buteur d'hier soir a fêté l'égalisation en effectuant ce salut militaire. Et il n'est pas le seul, puisque 6 de ses camarades sont courus sur la pelouse pour l'accompagner au poteau de corner et le faire face aux supporters. Vous l'avez vu, vous, Dominique?
Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai appris après le match.
On l'a un peu tous appris
avec
après.
Avec l'emballement des réseaux sociaux, les échanges de photos. C'est viral, évidemment, donc on est assez vite au courant. Mais sur le moment, quand il y a un but, on est un peu perturbé.
Bien sûr.
Et donc, je ne l'ai pas vu.
Mm-hmm. Et le geste a provoqué alors un tweet de la ministre des Sports, qui estime que les joueurs turcs ont gâché les efforts des forces de l'ordre du soir et que c'était contraire à l'esprit sportif. On a l'impression quand même qu'il y a une certaine lenteur de la part de l'UEFA, non? Parce que
c'est gênant, ils sont embarrassés.
On savait déjà au premier match ils avaient fait ça, et que là, s'il y avait un but, on s'attendait à ce que ça soit fait de nouveau, et ils l'ont fait à la fin du match.
C'est vrai que c'est pas très malin de la part des Turcs. C'est toujours mieux de
c'est fait exprès.
C'est toujours mieux sur un
c'est
terrain
pas malin,
de
c'est fait exprès.
De pas mélanger politique et football. Oui, ils le font exprès, évidemment, qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, ils encouragent leur État à faire la guerre aux Kurdes. Donc, c'est quand même
ils encouragent leurs soldats, disent-ils.
Leurs soldats, ouais, ok.
Il y a une nuance.
Mais bon, c'est un esprit particulièrement belliqueux.
Patriote.
Qui n'est pas franchement...
nationaliste sur le terrain, oui.
Ouais, en adéquation avec les valeurs du sport. Donc, comme ils sont au courant et comme l'UEFA savait, ben maintenant, il faut passer aux sanctions. Il y a qu'une seule étape, la prévention. On sait qu'il faut pas faire...
À quoi peuvent ressembler des sanctions dans ce cas-là?
Si vous voulez que ça soit efficace, faut taper
dans
fort.
Dans cet exemple.
Vous enlevez des points au classement. C'est-à-dire que si la Turquie, à cause de ses saluts militaires, finit pas premier...
Les deux matchs où ils l'ont fait, tu lèves les points.
Et finalement, elle est deuxième.
Et
là, je pense qu'ils vont réfléchir deux fois avant de refaire le salut militaire.
En tout cas, on dit qu'on ne l'a pas vu effectivement dans l'emballement du match. On voit les écrans télé. C'est que la chaîne qui retransmettait le match n'a pas diffusé les images. Alors, elle dit qu'ils étaient justement en plein replay. En ralenti du but. Et ensuite, en interview. Mais apparemment, les textes de l'UEFA donnaient aussi le droit de ne pas retransmettre ces images.
Souvent, c'est comme les supporters qui rentrent sur les pelouses maintenant, ils n'ont pas filmé.
Moi, je pense que c'est les
fumigènes aussi. On ne filme pas les fumigènes.
En fait, le mieux, c'est de ne pas filmer, tout simplement.
Oui.
Ne pas les filmer, on en parle plein. Et si on n'en parle pas, peut-être que ça peut aussi changer les comportements. Bon, parce que
ça finit par se savoir.
Il y a les réseaux sociaux qui
vont parler. Il y a 80 000 personnes dans un stade.
Les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde non plus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de.
Mais c'est parce que ce n'est pas filmé que ça ne saura pas.
Oui, mais peut-être que de le filmer, ça amplifie, Dominique.
Ça rajoute.
En tout cas, c'est amusant parce que M6 retransmet les images filmées donc et retransmises sur M6 étaient les mêmes en Turquie. Ce qui fait que les Turcs n'ont pas vu ce geste. Alors après, les photos ont tourné et le commentateur de la télévision étatique turque TRT a officiellement déploré qu'il était indigné de ne pas voir ces images et il a dit pourquoi ne montre-t-il pas le salut militaire? C'est magnifique, pourquoi ne le montre-t-il pas?
Il pense à une censure de la France qui s'est auto-censurée.
Je pense que lui parlait pour Erdogan, pour son ministre. Oui. Donc, en tout cas, voilà, c'était pour un incident clos. Antoine, hier, vous étiez dans le sportif en tout cas.
À ce moment-là,
vous aviez ce privilège.
Après ce but-là, on s'est concentré, alors pour ma part. Je ne sais pas pour Olivier Pron qui était à côté de moi. Je me suis concentré sur le banc, sur l'explosion de joie du banc turc. C'était comme si ils avaient gagné le championnat d'Europe au moment où ils égalisent. C'était assez. Cette joie-là était assez impressionnante et aucun membre du banc n'a fait le salut. Les autres joueurs sont partis complètement de l'autre côté. Donc non, on n'a pas vu, tout comme on n'a pas vu, semble-t-il, les supporters turcs qui eux ont fait le salut militaire pendant l'hymne de leur pays qui a été joué avant la rencontre. Ça non plus on ne l'a pas vu parce que c'était pas la majorité des supporters qui étaient là et pourtant ils étaient nombreux, les Turcs, ils étaient à peu près 30 000.
C'est énorme.
Une toute petite partie des supporters qui ont fait ce salut. Il faut le souligner.
Il faut dire qu'ils sont bien comportés quand même. Hein. Ils ont pacifié la Marseillaise. Ils ont été d'une ferveur incroyable.
Tous les reportages qu'on lit autour, tout le monde était très respectueux. Il faut le dire, beaucoup de francs.
On stigmatise.
Beaucoup de binationaux, exactement.
Hein. Souvent on stigmatise. Ils ont été formidables dans la globalité.
Et dans l'ambiance.
Ça a été une magnifique.
C'était magnifique. Entre Konya le 8 juin et hier soir, j'ai vécu deux moments immergés dans la Turquie qui m'ont impressionné. Donc franchement, félicitations à eux. Et après, il y a toujours une petite minorité qui déborde.
En tout cas, l'UEFA n'est pas tranquille parce que l'UEFA va aussi devoir se pencher sur un autre dossier.
Storming start for Marcus Rashford. For only one target, top corner, smashed it in. Played into Sterling, great control, great goal. Expertly taken by Raheem Sterling. Beautifully worked by England. And here is Harry Kane. He's not going to keep missing, is he? Six for England. Almost a slightly embarrassed smile.
Eh oui, leçon de football de la part des Anglais. 6-0. La rencontre Bulgarie-Angleterre se déroulait dans le stade de Sofia. Et les hôtes bulgares ont vite pris l'eau, hein, 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Alors, ça a peut-être énervé le public, on sait pas. En tout cas, certains membres du public, et peut-être pas vraiment des supporters, ont commencé à insulter plusieurs joueurs, enchaînant chants racistes et même saluts nazis dans leur tribune. L'arbitre a interrompu deux fois la rencontre, c'est ça, Bruno?
Ouais, c'était une rencontre à risque, on le savait déjà depuis quelques jours. Il y a certaines déclarations anglaises, notamment de joueurs qui réfléchissaient à l'idée de peut-être quitter le terrain par eux-mêmes s'il y avait des chants racistes. C'est un stade qui a été en partie fermé à cause d'incidents qui s'étaient passés face au Kosovo.
Hier, il y avait une partie de huis clos, exactement.
Voilà. Mm-hmm. Mais huis clos de 5000 places, donc c'est pas non plus un huis clos énorme. Mm-hmm. Et en fait, tout ce qu'on pressentait est arrivé. Il y a eu des provocations un peu de part et d'autre, et clairement, il y a eu ces chants. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les Anglais sont pas sortis de leur match. Même le petit Tyrone Mings, c'était sa première sélection, il a fait son match, alors qu'il a été ciblé par les chants racistes, par les cris de singe notamment. Et ils ont fait leur match, ils ont répondu de la meilleure des manières, mais c'était quand même très compliqué. Et surtout, moi, je trouve le plus grave, c'est les déclarations, par exemple, du sélectionneur bulgare, Balakov, qui lui dit qu'il n'a pas entendu les chants racistes, alors que ses propres joueurs sont venus à la mi-temps demander aux supporters de se calmer.
Alors justement, écoutons d'abord Gareth Southgate parler de ses joueurs parce que il était épaté par le fait qu'ils ne soient pas sortis de leur match.
We made the fourth official aware.
Au premier cri raciste, nous avons prévenu le quatrième arbitre. Le match a donc été interrompu et les officiels se sont adressés au public. Je pense que par la copie rendue, nous avons envoyé un message fort. La manière dont on a joué, dans des conditions si compliquées. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'un match arrêté deux fois pour ces mêmes raisons. Les joueurs sont rentrés au vestiaire. Ils étaient plutôt contents, heureux d'avoir bien joué et satisfaits d'avoir envoyé un message si fort.
They also know they've made a statement.
On le dit souvent, hein, la meilleure réponse, évidemment, c'était sur la pelouse, ce 6-0. Alors, depuis, eh bien, il y a eu des réactions, et notamment politiques, un peu comme en France où la ministre des Sports avait pris parti. Là, c'est le porte-parole de Downing Street, donc du Premier ministre, qui a ce matin déclaré le racisme que nous avons vu et entendu était ignoble, n'a aucune place dans le football, et il réclame à l'UEFA une enquête urgente, suivie de punitions fermes. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que le président de la Fédération bulgare, qui était parti avant la fin du match, qui n'avait pas condamné ni commenté ce qui s'était passé dans le stade, a finalement présenté sa démission. Il a démissionné dans l'après-midi, donc il y a déjà eu des choses.
Il assume, immédiatement.
Les autorités d'ailleurs lui avaient donné un peu une injonction. Hein. Ouais. En tout cas, c'est vrai que en Angleterre, on a réussi à un peu juguler. On le donne souvent l'exemple par rapport à l'Italie, et peut-être que l'Angleterre attend de l'UEFA qu'elle sanctionne et qu'elle prenne un peu ce genre de mesures.
C'est ça. Moi, j'ai du mal à comprendre que s'il y a déjà eu des chants racistes,
il n'y avait pas de VAR dans les stades hier, mais peut-être qu'on filme dans les tribunes.
Non, mais faire un huis clos de 5000 places, je comprends pas la sanction. Il n'y a pas de fermeté. En fait, dans ça, soit on fait un huis clos complet, et comme ça, on voit vraiment la réaction et on sort les supporters, même s'ils sont pas tous responsables.
Oui, parce qu'ils avaient déjà fait ça au mois de juin,
contre
les
le
Bulgares.
Kosovo et la République tchèque. Donc voilà, c'est quand même inquiétant. Et là, il y a eu une atmosphère vraiment avant le match, les jours qui ont précédé, toute la semaine, qui était problématique parce que les Anglais en ont parlé, ils ont un peu ouvert le débat. Entre eux, il y a un jeune joueur qui s'appelle Tammy Abraham qui a répondu à la presse en disant oui, effectivement, on en parle, Harry Kane en a parlé, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et le problème, c'est que c'est arrivé un peu sur le devant de la scène et que les Bulgares ont pas aimé du tout et ils ont
pris ça pour une provocation et du coup bah ça s'est enchaîné quoi. Et, mais c'est à l'UEFA de trancher. Bah c'est pas aux Anglais de réclamer.
L'UEFA et la FIFA font la politique de l'autruche quand même. Hein. Moi je suis allé à un match en Lituanie où l'équipe de France a été accueillie par Bienvenue en Afrique. Pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des matchs en Italie qui sont interrompus. Donc j'imagine que parce qu'il y a des joueurs noirs en équipe de France, hein, c'est, j'essaye de mettre à la place de gens racistes, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Il y a des matchs interrompus, il y a des cris racistes en Italie, en Serie A. Je vois pas la réaction de la UEFA ou de la FIFA, qui sont les qui organisent aussi
Supra fédéral.
Donc le racisme, il est pas l'apanage de l'Europe de l'Est ou voilà, l'Italie c'est en Occident, c'est en Europe de l'Ouest, voilà et. Il y a pas de réaction ça passe voilà donc bon. c'est terrible quoi.
On attendra.
C'est l'affaire du salut militaire des Turcs, c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire c'est une réaction qui est trop lente. Et au moment où l'UEFA aura mené
le sujet après le match de vendredi soir.
Temps de mener l'enquête, on est plusieurs semaines après, tout le monde a oublié, on sanctionne à minima parce que justement tout le monde a oublié, ça manque de fermeté à l'UEFA et depuis plusieurs décennies.
Eh ben on surveillera si ça sera à minima dans Radio Foot, on vous tiendra au courant.
Bye bye, Ronaldo part pra bola, tiro de pé direito, gol! Cristiano Ronaldo! CR700! Will this be goal number 700? Ronaldo! It is!
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous venez de voir le 700e but de Cristiano Ronaldo.
200, 300, 400, 500, 600, 700 gols! CR700!
Et oui, battu hier les champions d'Europe en titre, hein, mais toujours pas qualifiés, eux non plus. Qu'importe, hier soir, c'est leur star, vous l'avez entendu, vous reconnaissez ce cri, hein, Marc, ce « ouh ».
Oui, hein. Ils sont classiques quand ils marquent.
Il avait le même quand il jouait, Marc.
Exactement. J'ai mis 700 buts aussi, mais entraînement. Mais c'est important. En tout cas. Il y en a qui ne le mettent pas en entraînement.
Oui, ça veut dire que vous entraînez plus longtemps que les autres. En tout cas, hier soir, leur star, l'un des plus grands joueurs donc, de la planète football, Cristiano Ronaldo, a marqué sur pénalty le seul but du Portugal, un battu 2-1 par l'Ukraine qui est en tête de leur groupe. Et Cristiano Ronaldo est devenu CR700. Hein, c'est facile parce que CR7, on s'était habitué, CR700 désormais. En tout cas, il l'a assuré, écoutez, il ne l'a pas voulu.
Les records viennent naturellement, je ne les cherche pas. Ce sont eux qui viennent le chercher. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, d'atteindre ce cap. Mais je tiens à remercier l'ensemble de mes coéquipiers, mes collègues, mes entraîneurs, tous ceux qui ont aidé Cristiano à devenir le joueur qu'il est.
On le reconnaît bien.
On dirait du Zlatan. Là,
exactement. Samuel Eto'o, il parle de lui à la troisième personne. Vous l'aurez tous noté.
C'est magnifique.
Hein, c'est magnifique. En tout cas, c'est les records qui lui.
Bien sûr.
C'est logique.
Qu'est-ce qui est logique, Marc?
Bah, de parler comme ça. Il est tellement énorme, énormissime que pour lui, c'est dans sa droite lignée. Je pense qu'Mbappé est capable de dire ce genre de choses. Parce qu'il est qu'au début, il sait très bien que ça ne va pas s'arrêter. Et lui considère, pour l'instant, dans sa tête, je suis sûr, il considère que ça ne s'arrêtera jamais et qu'il va continuer à marquer. Et l'évolution pour lui, c'est comme ça.
Il a fait croire qu'il pensait à la retraite récemment, mais je crois que c'était marketing. En tout cas, ces statistiques, c'est 700 buts en 974 matchs professionnels. Ça veut dire 0,71 buts par match. Donc,
C'est-à-dire qu'on commence quasiment le match avec un 0 quand il est là. Quoi.
Voilà, exactement. C'est pour ça que les clubs comme la Juventus sont contents de l'avoir dans leur rang. Et écoutez, justement, lorsqu'il marqua un jour lointain.
Martins. Agora Tonhito. Bem jogado. Cristiano Ronaldo. Ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo. É um golo monumental de Cristiano Ronaldo.
Alors déjà on parlait de but monumental de Cristiano Ronaldo. Savez-vous quand c'était et contre qui?
2002-2003, non?
Mm-hmm.
Son premier but.
Sporting.
Son premier but.
Sporting, ouais.
Sous les couleurs du Sporting, effectivement, c'était. Il avait marqué un doublé d'ailleurs dans ce match, gagné 3-0. C'était contre Moreirense, qui est une équipe du championnat portugais. C'était donc le 7 octobre 2002. Et voilà, entre le 7 octobre 2002 et le 14 octobre 2019, il a marqué 700 buts, dont 95 pour la sélection du Portugal. C'est un surhomme.
Bah oui, c'est moi j'étais en l'Euro 2004 il y a 15 ans, c'était sa première compétition internationale, j'ai vu dans
au Portugal,
ils sont allés en finale, ils l'ont perdu contre la Grèce. Et j'ai vu le phénomène dans son pays, c'était déjà très très impressionnant, il devait avoir 19 20 ans.
Là en plus c'est incroyable, pardon, il avait 17 ans là.
Ouais, voilà.
17 ans son
en
premier
fait,
but.
En fait, c'est l'équivalent en tennis de Federer et Nadal avec Messi, voilà, parce que quand on parle de Cristiano, forcément
il faut étalonner.
Juste après, on parle de Messi dans la même phrase.
On va en parler d'ailleurs.
Et Nadal et Federer, voilà, on est aussi contemporain de phénomènes incroyables, quoi. On a la chance, je trouve, parce que souvent on nous parle de Pelé quand on commence à s'intéresser au foot à 7-8 ans.
Je vais vous en parler.
On nous parle de Pelé, on nous parle de, je sais pas moi, de George Best pour ceux qui vivent en Angleterre, ou on nous parle de Michel Platini ou Zidane pour les Français ou de Coppa pour les plus anciens. Mais là, on est face à deux phénomènes de l'histoire du football. C'est incroyable, c'est fantastique, quoi. Il y a pas de mots.
Alors justement, Cristiano. Eh bien, il joue toujours, il est toujours en activité. Et devant lui, il est rentré dans le cercle très fermé. Il y a 5 joueurs devant lui qui ont déjà passé la barre des 700 buts.
Gerd Müller.
Alors, c'est le prochain.
Romario.
735, oui. Allez-y. J'en ai 5, là.
Un Brésilien.
Bah, Romario.
Romario, j'ai dit Romario.
Un autre Brésilien.
Aidez-le, Dominique.
Pelé.
Oui, évidemment.
Pelé.
Et puis, il y a le joueur du Real. Puskas,
ouais, c'est vrai.
Et alors Bican, moi non plus, c'est si je me trompe pas, de Tchécoslovaquie, m'a dit David Finzel, qui a cherché pour
très,
nous.
Très tchécoslovaque, David.
Ouais, il aime bien ce pays-là. On va l'envoyer là-bas.
En tout cas, le prochain but, donc, alors le prochain record qui viendra à lui, oui, si on a bien écouté Cristiano Ronaldo, c'est celui de Gerd Müller, 735. Ouais. On a Puskas avec 746. Pelé 767, Romario 772 et ce Bican 805. Il ira jusqu'où? Il va tous les dépasser là? Le 805 va venir vers lui aussi, vous croyez?
C'est encore quelques bonnes années vu son corps. Il se blesse quand même jamais. C'est comme c'est l'anti-Neymar, hein. C'est l'homme qui se blesse jamais. Il a un corps hallucinant. Il fait ses 3000 abdos par jour.
C'est une machine.
C'est un grand pro, quoi.
Il joue c'est
un professionnel.
Il est dans un club dominant, la Juve. Il a qui est une bonne équipe. Donc il a toutes les raisons de continuer à marquer.
Et puis il a tout simplement encore faim.
Ouais.
C'est ça qui est un.
Mais là surtout, il a une saison encore au moins.
Vous parliez de son premier but. C'était il y a 17 ans. Pile ou quasiment à une semaine près, et il continue à se mettre en scène d'ailleurs en montrant ses entraînements, même des petits détails. On le voit parfois dans sa maison jeter des petites billes dans un verre pour améliorer sa
son
précision.
Adresse.
C'est en permanence.
Ouais, je vais faire ça aussi.
C'est en permanence.
Je vais faire ça ce soir.
Ça casse moins de meubles. Lionel Messi est derrière lui, mais quand même assez loin, 672. Mais ce sont deux hommes qui marquent une cinquantaine de buts par saison.
Donc, ils ont un écart.
Donc voilà.
Deux ans. Il y en a un qui est plus passeur.
Messi de 86.
Il y a deux ans d'écart entre
eux. Un an et quelques, je crois.
672, c'est qu'il est.
Ouais, il est capable.
Hein. Il est même un peu en avance.
Qui est en avance?
Messi, sur Ronaldo.
Parce qu'il a.
S'il a un an de moins, un an et demi de moins,
il n'est plus qu'à 30.
Il a 28 buts.
Il a 28 buts.
Ça peut le faire.
Ouais, franchement.
Pas mal.
28 buts dans 6 mois, c'est bon.
Zlatan était à 535.
Sur deux matchs.
Un petit mot.
Trois.
Si c'est Elbar.
Un petit mot sur une star toujours brillante, on vient d'en parler, mais l'autre, lusophone elle aussi, mais brésilienne, et qui tombe peut-être dans un trou noir, un nouveau trou noir.
Ah, l'homme qui se blesse tout le temps.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Dominique.
On résume la carrière de Neymar. Soit je me roule par terre.
C'est pas méchant.
Vous ne pensez que Neymar du PSG. Pensez à un autre Neymar.
Vous le sentez, l'amoureux déçu.
Est-ce qu'on pourrait parler de Neymar pour dire, vous avez vu le but qu'il a mis? Bah non, ça on peut pas.
Bah si, il en a mis depuis le début de saison.
Dijon.
Mais il est encore le meilleur buteur de Ligue 1.
Ou son papa a dit quelque chose, ou il est à l'anniversaire de sa sœur, ou il est au carnaval de Rio.
Heureusement que c'est pas moi qui dis ça. Parce que là, je sors pas de la radio.
Annie, j'en peux plus.
C'est la mauvaise influence du PSG, ça, Dominique.
Ouais, je suis sûr que c'est ça.
Bon, Dominique, on le reverra pas avant le 23 novembre, c'est ça?
Ah ben je sais pas.
S'il a passé des examens.
Le 23 novembre.
Oui, on a calculé là. Vous avez calculé dans les colonnes du Parisien.
Alors vous savez, la reprise, on m'avait dit 4 semaines pour Mbappé. On donc c'était le 25 août. Nous sommes le 15 octobre à peu
près. Ça fait 8 semaines.
Voilà.
Il a joué deux fois 30 minutes depuis.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il sort et après il retrottine. Donc en fait, j'ai dit c'est une alerte, c'est une pointe, mais en fait 4 semaines, c'est énormissime en fait. C'est que c'est beaucoup plus grave que prévu.
Il a une fragilité, Annie. On peut pas nier.
Bah là, c'est le biceps fémoral. Voilà.
Tous les deux mois.
Il s'est blessé deux fois au métatars, cinquième métatars, ce qui est extrêmement rare. Déjà une fois, c'est rare. Deux, j'imagine. Il a une fragilité de son corps. Alors, est-ce que c'est une hygiène de vie qui ne correspond pas aux standards du haut niveau, qui fragilise son corps, qui fait qu'il va se blesser continuellement, parce que sa carrière ne correspond pas au talent qu'il a?
En tout cas, il a manqué avec le Paris Saint-Germain 44 matchs déjà, et c'est à peu près un match sur deux.
Alors qu'il est lui aussi en stats avec le Paris Saint-Germain.
Il est très impressionnant.
C'est un but par match en moyenne.
Et il est incroyable parce que là, il est le meilleur buteur de la Ligue 1. Alors qu'il est arrivé en retard parce qu'il était suspendu. On se souvient du trophée des champions du début de saison.
Après, il y avait son transfert.
C'est presque une bonne nouvelle pour Paris qui se blesse que maintenant. Parce que d'habitude, il se blesse un petit peu plus tard et il manque la fin de saison. Et Paris n'arrive pas à passer les huitièmes de finale.
Parce que vous croyez qu'en janvier, il va pas se blesser.
Après, c'est fait. Une fois que c'est fait.
Il va commencer janvier par nous dire qu'il veut aller à Barcelone. Et puis à la fin,
je m'étonne parce que on dit beaucoup Neymar se blesse tout le temps, mais Mbappé il s'est blessé aussi, peu près la même blessure. Cavani, ça fait un moment qu'il est blessé. Est-ce que c'est pas un problème aussi au PSG, du staff médical?
C'est la question.
Parce que depuis un an,
le staff médical vient de changer.
Énormément de blessures.
Celui qui vient d'arriver, on peut pas lui imputer. Mais est-ce que ce sont les préparations de Tourelle?
Peut-être.
C'est surtout au niveau de l'ischio jambier tous.
Eh ben, on se posera la question dans un autre épisode de Radio Foot. On continue.
Je voulais introduire en fait cette conférence par une réflexion que faisait William Churchill, qui disait: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste, ce que nous sommes, voit l'opportunité dans chaque difficulté.
Dominique, c'est William Churchill ou c'est Winston Churchill ou William Shakespeare?
William Shakespeare, peut-être.
Ouais. On a hésité.
En tout cas, il a bien mélangé.
Ouais, c'est rapide. Bon. Ouais.
En tout cas, les mots de Jean-Michel Aulas suffiront-ils pour calmer ceux qui ont du mal à digérer ce que certains ont déjà appelé la surprise du chef, la nomination donc de cet entraîneur français de 55 ans à la tête de l'équipe de Lyon? Il a pris un peu tout le monde de court hier, et c'est bien, hier il fallait immortaliser le moment après la signature, et donc il y a eu une photo.
Serrez-vous la main.
T'as pas besoin d'un truc
aussi. On regarde, la même, mais on regarde. Encore une autre.
Il y a Photoshop ou pas?
Bras-dessous, hein, Juninho et Rudy Garcia, le directeur sportif de l'OL, qui est arrivé aujourd'hui en compagnie donc de Jean-Michel Aulas. Aussi, les trois hommes se sont présentés face à la presse et ont évoqué la nouvelle mission de cet entraîneur. Écoutons Rudy Garcia dévoiler son plan, on va dire. Quel sera son OL?
Il faut qu'on soit l'Olympique Lyonnais, ça c'est important. Et charge à moi d'essayer de convaincre les joueurs que le projet de jeu que je vais leur proposer... ils y adhèrent et ils aient envie de gagner des matchs à travers ce projet de jeu-là. Mais généralement, les joueurs, ils aiment bien une équipe qui touche beaucoup le ballon et qui est portée vers l'offensive. J'oublie pas, mon équipe devra courir, pas qu'avec le ballon, mais aussi sans le ballon, qu'elle devra être équilibrée, qu'elle devra être collectif. Juni a mis des buts fantastiques et m'en a mis quelques-uns aussi qui m'ont fait perdre des matchs. Lui était aussi un joueur qui faisait jouer les autres. Et un patron dans l'équipe. Et moi, j'apprécie beaucoup ceux qui marquent des buts, mais j'apprécie beaucoup ceux qui font les dernières passes et qui ont le sens du collectif. Donc j'espère que cet Olympique lyonnais, le mien, aura une âme et un esprit collectif. C'est ce que je vais essayer d'inculquer aux joueurs en tous les cas.
Marc Libra, c'était donc l'ancien entraîneur de l'OM,
oui.
Rudy Garcia d'abord. Ça vous surprend qu'il se retrouve à l'OL pour apporter ce supplément d'âme?
C'est surprenant parce que on a vu quand même les dernières saisons avec l'Olympique de Marseille. Si on recherche du jeu, alors là,
il y a eu deux saisons. Hein.
Sur ce qu'il dit, oui, non, mais sur ce qu'il dit, ça fait rêver, quoi. La réalité de ce qui s'est passé avec Marseille est tout autre. Et il avait quand même des joueurs d'expérience, il avait des patrons, des Luis Gustavo. Alors c'est vrai qu'on va rappeler Dimitri Payet, on va rappeler le dernier trimestre de la première saison où ils vont en finale de Ligue Europa, où il se passe quelque chose à partir des quarts et demi sur la Ligue Europa. Mais autrement, c'était une saison très 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 compliquée. Il a pas su gérer la plupart des joueurs. Là, il récupère, il rentre dans la maison lyonnaise qui est fortement influencée par les générations. Enfin, on dit toujours, à Lyon, il y a toujours quelque chose de très particulier. Voilà, mais je pense que c'est une blague. Je me dis, non, c'est un canular. C'est un canular, peut-être. Eh ben non, c'est pas un canular. Je pense que Monsieur Aulas, lui qui devait être en retrait, Il revient aux commandes et c'est, je sais pas, c'est surprenant.
C'est Bruno
très,
Constant.
C'est très surprenant.
Est-ce que ça correspond, oui, au projet lyonnais et à ce que,
mais je sais pas, parce que je comprends toujours pas ce qu'est le nouveau projet lyonnais. Il y a 4-5 mois, on nous expliquait qu'on voulait tourner la page, qu'il voulait prendre du recul, qu'il voulait aller vers un entraîneur différent, alors un entraîneur étranger avec un nouveau binôme, Juninho, Silvinho. Et puis en 2-3 mois, on fait voler tout ça en éclats pour une mauvaise série de résultats. Donc moi, je m'étonne que dans des grands clubs, parce que l'Olympique Lyonnais se veut être un grand club, comment on peut paniquer aussi vite, et du jour au lendemain, on change tout et on repart sur autre chose complètement différent. À la limite, il serait parti sur Laurent Blanc, qui a quand même une stature internationale, qui a quand même été sélectionné en équipe de France, qui a quand même eu des résultats et du jeu, beaucoup de jeu. Tu peux le comprendre. Tu pars sur une autre direction, mais tu peux le comprendre. Là, tu pars sur Rudy Garcia, qui est en situation d'échec à l'Olympique de Marseille, qui était derrière Lyon. Alors, même s'il n'a pas les mêmes joueurs à disposition.
Bon, il a eu un parcours aussi en Italie où ça s'était plutôt bien passé quand il était arrivé à la Roma.
Ça s'est bien
il
passé
a été champion de France avec
saison,
Lille.
La première saison.
Après,
oui,
c'était catastrophique. Et Lille, et le titre Lille commence à être un peu loin maintenant. Moi, je m'étonne de la direction dans laquelle va l'Olympique Lyonnais, parce que je ne comprends absolument rien.
Bah, Antoine, il vaut mieux penser que Juninho sait ce qu'il fait, ou Aulas sait ce qu'il fait, parce qu'après l'erreur Silvinho, le Paris Garcia,
si c'en était une.
Les mettrait vraiment dans une grosse, grosse difficulté si ça venait à échouer. Et quand on sait que Rudy Garcia a, comme le rappelaient Marc et Bruno, qui sont les plus grands fans de Rudy Garcia en France, des difficultés à terminer ses saisons et à terminer ses mandats de manière positive, Lyon avait besoin certainement d'autre chose.
Vous avez cru aussi à un canulaire, Dominique ?
Ouais, pas loin, oui, parce que quand ils ont viré Silvinho, que des noms ont commencé à circuler, Sampaoli, Gourvennec, Laurent Blanc, Garcia,
Mourinho.
J'ai dit déjà, il y en a un qui n'en aura jamais, c'est Garcia, c'est pas possible. Olaf le déteste.
J'ai pensé la même chose.
On va regarder Blanc.
Ils nous faisaient croire qu'ils étaient testés via Twitter, hein, on se souvient.
Oui, bah, c'est une situation UBS, mais après, Lyon n'a pas visiblement envie d'avoir un vrai entraîneur, puisque j'apprends que monsieur Laurent Blanc ne vient pas parce que ils ont refusé de prendre son adjoint ou 2-3 adjoints, un préparateur physique, un analyste vidéo.
Ce qui est le cas dans tous les grands clubs européens.
Donc ça veut dire qu'il ne
vient avec ton équipe, il vaut mieux.
Donc ça veut dire tout ça pour garder Greg Coupet ou Gérald Le Baticle. Pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'ambition. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts si Mourinho avait dit oui, par exemple, vous pensez qu'il aurait dit, ah oui, mais je veux absolument qu'il y ait Gérald Baticle. Hein. et Greg Coupet, que je connais très bien. Pour moi, Lyon ne veut pas être le grand club qu'il prétend être.
Voilà, exactement.
C'est tout.
Exactement ça.
Et dans ce cas-là, pourquoi pas garder Baticle? Parce que lui, en fait, faut être sérieux. Genesio Baticle, ça a marché quand même pas mal. Baticle connaît très très bien le football. Il connaît l'OL. Alors on va me dire, oui, mais on reprend.
Tout le monde va regretter Genesio, c'est ça?
Mais je suis très content parce que Genesio, c'était sous un tocard. Mais Genesio, à chaque fois, et je l'ai souvent défendu, à chaque fois, c'était mis en avant. Face à Paris, il allait les chercher, il allait les perturber.
Il y avait du jeu.
Il a toujours qualifié l'OL pour une Ligue des Champions.
Non, il y avait des beaux matchs
de Ligue
des Champions.
Et le problème, c'était toujours Genesio. Et là, je pense qu'ils vont rire.
Ouais, entre parenthèses, Juninho l'a un peu dit dans la conférence de presse en disant, en gros, en 3 mois, on a perdu toutes les bases que nous avait laissé Bruno Genesio. Rudy Garcia, en plus, arrive dans un terrain miné qui est celui des supporters, qui ne veulent pas de lui. Il les rencontre d'ailleurs cet après-midi avec Jean-Michel Aulas pour essayer de présenter un petit peu son projet. Il y a une méfiance et une défiance absolument gigantesque, comme on en a rarement vu à l'arrivée d'un nouvel entraîneur.
Je me souviens qu'ils ont fait vivre un enfer à Claude Puel, ils ont fait vivre un enfer à
Genesio.
Quand ils ont
connu leur poids,
ils lâchent pas.
Il a intérêt à gagner rapidement, Garcia.
Ils lâchent pas. Mais il y a une pétition qui circule sur Internet. Bon, 6000 signatures à la mi-journée, mais quand même.
C'est ça aussi quand on cède le pouvoir aux ultras, parce que Jean-Michel Aulas, il a viré aux Genesio pour ça.
Tout ça à suivre dans Radio Foot International, bien sûr. Nous sommes une émission en épisode. Chaque jour suffit sa peine. Merci à tous. Merci à David Finzel, bien sûr, et à Laurent Salerno. À demain. C'est pas